le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tapis rouge pour Emmanuel Macron. Le président de la République entame demain sa deuxième visite d'État aux États-Unis. Il sera notamment reçu en grande pompe à la Maison-Blanche par Joe Biden. À ses côtés, les ministres de l'économie et des armées, les patrons de LVMH, de Free, d'EDF, de Total Energy, ainsi que les spationautes Thomas Pesquet et Sophie Adenau.
Objectif pour Paris et Washington, montrer l'unité de nos deux pays.
Oui, mais sur la table, il y aura aussi des sujets qui fâchent. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La question du protectionnisme américain devrait crisper un peu les dîners.
Oui, Emmanuel Macron veut faire entendre la voix de l'Europe avec en ligne de mire l'Inflation Reduction Act, cette loi colossale adoptée par Joe Biden l'été dernier qui prévoit 370 milliards de dollars de dépenses. L'Union européenne parle de distorsion de concurrence avec une inquiétude toute particulière pour l'industrie automobile. Washington prévoit des crédits d'impôt pour tout véhicule électrique construit aux États-Unis, ce qui exclut encore un peu plus les entreprises européennes du marché américain. Alors Emmanuel Macron obtiendra-t-il des concessions de la part de Joe Biden? La tâche s'annonce difficile car la relance de l'industrie américaine est au cœur du mandat du président démocrate. Ces investissements massifs dans les véhicules électriques, les énergies vertes, les microprocesseurs ont pour but de concurrencer la Chine et de créer de nouveaux emplois aux États-Unis. Sur le plan économique, le Made in America défendu par Joe Biden reste dans la droite ligne de l'America First vanté il y a quelques années par Donald Trump.
Alexis Guilleux a noté que vendredi, le président de la République se rendra à la Nouvelle-Orléans pour montrer son attachement à la francophonie.
Pendant ce temps, en France, les trois candidats à la présidence des Républicains entament leur dernière semaine de campagne.
Dernière ligne droite, le nouveau président sera élu dimanche. Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier n'ont donc plus que quelques jours pour convaincre. Agenda chargé, réunion publique à tour de bras. Mais qui l'emportera? Alexandre Chauveau, pour l'heure, l'incertitude est totale.
Oui, incertitude, parce qu'aucun sondage n'est autorisé pour ce scrutin. Éric Ciotti caresse pourtant l'espoir d'être élu au premier tour. Fort du soutien de Laurent Wauquiez et des puissantes fédérations LR du Sud, le Niçois revendique sa fidélité au parti et la clarté de son discours.
Nous devons tout à la fois être le parti de l'ordre et le parti de la baisse des impôts.
L'inconnu de cette élection, c'est aussi le score de Bruno Retailleau dimanche soir. Son discours plus exigeant va-t-il payer auprès des militants? Le Vendéen veut réarmer intellectuellement la droite pour se donner des chances de l'emporter en 2027.
Ni LR ni la droite française ne sont un objectif. Ce sont des moyens au service d'une cause. Cette cause, c'est la France.
Incertitude enfin sur l'attrait des électeurs LR pour la droite populaire revendiquée par Aurélien Pradier. Seule issue, selon lui, pour reconquérir les 15 millions d'électeurs perdus en 10 ans.
La droite à laquelle je crois, c'est celle qui parlera aux caissières de Saint-Quentin, qui reparlera à nos agriculteurs, à tous nos jeunes.
Et malgré les ambitions de chacun, la campagne a jusqu'ici été respectueuse. Le vainqueur devra de toute façon rassembler une famille politique qui ne peut plus vraiment se payer le luxe de la division.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Allez, ce matin, Éric Ciotti s'exprime dans le journal Les Échos. Il plaide pour que LR soit le parti de la baisse des impôts et de la hausse des salaires. Il plaide également pour un choc fiscal. 8h04 sur Europe 1. C'est sans doute le téléphone le plus sensible de France. Comment protéger les conversations d'Emmanuel Macron?
Depuis que le logiciel espion Pegasus a infiltré le smartphone du chef de l'État, la sécurité de ces échanges téléphoniques fait l'objet d'âpres recherches. Les armées travaillent sur un nouvel appareil ultra sécurisé et simple à utiliser, William Molinier.
Oui, il devrait remplacer l'historique téléphone Théorème, un mobile à clapet développé par Thales et déployé il y a 10 ans dans les administrations. 14 000 civils et militaires en ont été dotés. Trop compliqué, peu ergonomique et donc pas fonctionnel, tacle un ancien utilisateur. Selon nos informations, la Direction Générale de l'Armement est en train de développer un nouveau produit. Ce sera un smartphone un peu plus gros que ceux qu'on trouve dans le commerce, poursuit une source informée. Il sera capable de sécuriser les conversations et la transmission d'informations relevant du secret défense. En attendant le déploiement de ce nouveau téléphone dans les services de l'État, les agents chargés du contre-espionnage redoublent de vigilance. Régulièrement, parlementaires et ministres sont sensibilisés aux risques, voire rappelés à l'ordre. Mieux vaut, pour échanger des documents classifiés, privilégier la bonne vieille feuille de papier imprimée, voire le rendez-vous classique de visu et de vive voix.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Dans les Yvelines, un jeune homme de 16 ans, garde à vue ce matin hein, suite au meurtre d'un adolescent de 14 ans ce week-end.
Oui, il s'est rendu de lui-même au commissariat hier et aurait raconté avoir eu un marteau dans les mains. La victime est décédée après des coups sur la tête lors d'un affrontement entre bandes rivales de Coignières et Morpa dans la nuit de samedi à dimanche.
Il est 8h06 sur Europe 1, direction les Pyrénées-Orientales maintenant. Depuis 2 ans, passé en Espagne est devenu un vrai casse-tête.
Mais oui, plusieurs petites routes qui liennent aux deux pays ont été fermées, conséquence du renforcement des contrôles aux frontières et du redéploiement des forces de l'ordre sur les grands axes pour faire face à l'immigration clandestine. Une nouvelle circulation qui complique la vie des habitants, notamment à Banyuls-sur-Mer, dont le col permettait pourtant un passage rapide en Espagne. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le sud-est, Benjamin Péter.
Liberté, peut-on lire à la peinture blanche de part et d'autre des rochers qui bloquent la frontière. Pour le maire de Banyuls, Jean-Michel Solé, que cette petite route qui traverse les Albères reste fermée, c'est incompréhensible.
C'est une privation de liberté pour les honnêtes gens qui vont en Catalogne Sud. Les motifs invoqués sont l'immigration, alors que l'immigration ne passe pas par là.
Le blocage a des conséquences économiques. Pauline, elle est éleveuse de chèvres sur les pentes du col. Elle perd un temps considérable pour chercher du foin en Espagne.
Avant, je mettais 30 minutes et là, je me retrouve à mettre 2 heures. Quoi.
On a l'impression qu'en fait, ils veulent plus nous embêter à nous. C'est pas 4 blocs qui vont empêcher 4 migrants de passer. Quoi.
L'association Albert sans frontières s'est créée cet été et compte déjà 1200 membres. Pour son président Pierre Beck, maintenir ce passage fermé, c'est une violation du traité de Schengen.
Schengen prévoit un certain nombre de dérogations, en aucun cas la fermeture. C'est qu'on est dans une période de tension migratoire. L'État ne veut pas donner de signes apparents de laxisme.
Alors la préfecture indique que les conditions ne sont toujours pas réunies pour une réouverture, ce qui a conduit l'association à déposer un recours devant le tribunal administratif de Montpellier. À Banyuls-sur-Mer, Benjamin Péter, Europe 1.
Dans l'actualité économique maintenant, les chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme. Ils estiment que les aides du gouvernement pour compenser la hausse des prix de l'énergie sont mal fléchées.
Et oui, depuis une semaine, les entreprises en difficulté peuvent faire une demande d'aide auprès d'un guichet spécifique. Elles ont jusqu'au 31 décembre pour monter leur dossier. Mais encore, faut-il être éligible à ce coup de pouce? Laurent Kopp est le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Loir-et-Cher. Il témoigne de l'inquiétude de ses adhérents.
Vous avez différentes réactions de chefs d'entreprise aujourd'hui. Vous avez les gens qui sont abattus parce qu'ils ne savent pas comment on va faire. Et puis, il y a des gens qui sont très énervés. Dans un des cas que je connais bien, c'est une personne qui est bientôt en retraite et qui était sur le point de vendre son entreprise. Eh bien, il s'aperçoit que son entreprise d'une vingtaine de personnes ne vaut plus rien aujourd'hui parce que, avec ce qui se passe actuellement sur l'énergie, son entreprise va droit à la banqueroute. Il ne sera pas capable de payer le surcoût énergétique malgré les aides de l'État. Et donc, ça fait qu'on a un contexte où il y a une énorme inquiétude, une énorme incertitude sur 2023 et tous ces chefs d'entreprise qui sont des bons gestionnaires, ils savent où ils vont, hein, clairement, et ben se retrouvent dans une situation où ils ne voient pas d'issue et donc ils sont très 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 énervés.
Laurent Kopp, président de la CPME du Loir-et-Cher, au micro Europe 1 de Margot Faudéré.
En bref, va-t-il falloir passer les fêtes à nouveau masquées et le Covid circule de plus en plus fortement.
Plus de 48 000 contaminations en 24 heures vendredi dernier, chiffre probablement sous-estimé compte tenu de la grève des biologistes et de l'usage des autotests qui faussent les statistiques. La 9e vague est bien là, assurent les épidémiologistes.
En Chine, la population vend debout contre la politique zéro Covid.
Et c'est plutôt inédit, ce week-end, des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs grandes villes chinoises pour dénoncer les confinements à outrance. Plusieurs personnes ont été interpellées et des journalistes molestés. En Ukraine, nouvelle nuit glaciale à Kiev, la capitale sous la neige. Il a fait jusqu'à moins 10 degrés ce week-end. En revanche, l'électricité a été rétablie pour la première fois depuis le 11 novembre dans une partie de la ville de Kherson, une ville que les Ukrainiens ont repris aux Russes, symbole de cette contre-offensive ukrainienne qui déroute Moscou et son centre de décision, le Kremlin. D'ailleurs, le Kremlin, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Thibaut Hue.
Kremlin ou Kremol signifie forteresse en russe. Dans le pays, plusieurs villes possèdent des Kremlins, mais celui de Moscou est devenu l'une des plus importantes fortifications d'Europe. Plus de 27 hectares en plein centre-ville, voisin de la place Rouge le long de la rivière Moskova, entouré d'un haut mur de briques et de 19 tours décorées chacune d'une étoile en verre de plus d'une tonne, c'est la plus ancienne partie de la capitale construite entre le 14e et le 15e siècle. Résidence des tsars, puis du gouvernement soviétique, c'est aujourd'hui le siège de la présidence, là où travaille Vladimir Poutine, le symbole du pouvoir russe qui nourrit fantasmes et légendes, notamment celle d'un métro caché, de mystérieux tunnels qui passeraient sous le Kremlin pour rejoindre notamment les quartiers généraux des services secrets. Son existence n'a jamais été confirmée ou démentie par les autorités russes.
Thibaut U.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Merci beaucoup Fanny Marceau, à demain matin. Dans un instant, Jordan Bardella est l'invité de Sonia Mabrouk. À tout de suite.